Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons pour la première émission après cette rentrée. Et il y a Catherine, Bianchi pour les protestants, Mimoun Mbati et Salah Aoussi pour les musulmans, Chantal Matelet pour les catholiques, Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes, Jean Botvinnik pour les juifs et puis Raymond Deguiry-Richard pour l'animation de la radio. Je suis contente que nous nous retrouvions. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est nourriture et interdits alimentaires, mais toujours dans la tradition de notre émission, un coup d'œil, plus ou moins long, sur l'actualité ou sur des événements qui nous ont interpellés, qui nous amènent à vous faire part de notre réflexion. Alors je crois, Jean, que vous aviez des choses à nous dire.
Oui, effectivement. Dans ce temps où nous nous préparons à fêter les fêtes de Nouvel An juives, le 19 et 20 septembre, où nous nous souhaitons d'être tous inscrits dans le livre de la vie, dans ce temps où la mort naturelle par le Covid rôde, mais où la mort est donnée par la haine interhumaine, je voudrais vous signaler trois déclarations de chefs spirituels de trois grandes communautés. C'est par ordre chronologique d'abord celle de l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, qui le 1er septembre a déclaré, entre autres, dans la conscience d'un chrétien, non seulement l'antisémitisme, mais aussi l'indifférence à son égard sont une grave faute morale. Le cœur humain n'est pas moins atteint par ses actes que la terre par la pollution. La glaciation des esprits nous fait courir autant de risques que le réchauffement de la planète. Il nous faut combattre ces deux dérives simultanément. Puis le 4 septembre, le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris a fait une déclaration dans le Figaro, M. Hafez Shemseddine, qui termine donc cette déclaration par ces mots. Que Charlie Hebdo continue d'écrire, de dessiner, d'user de son art et surtout de vivre. Que le drame qui a frappé cette publication des policiers et nos compatriotes juifs serve de leçon à la communauté nationale, mais aussi à ceux qui se réclament de l'islam, à ceux qui se disent amis de l'islam, des musulmans, et qui ne condamnent pas clairement ces crimes terroristes, en quoi le meurtre des dessinateurs a fait avancer la cause des musulmans, et en quoi la destruction et la barbarie peuvent-elles servir l'image de l'islam. Enfin, le grand rabbin de France, Chaim Korsia, le 6 septembre, a déclaré « La prière n'est pas un aveu d'impuissance, c'est un encouragement » à agir pour une société plus solidaire.
Bien voilà, donc je crois, Chantal, que...
En rapport avec le procès des attentats djihadistes contre Charlie Hebdo, Frédéric Boyer, écrivain, dans une chronique dans La Croix, dit « De quoi les caricatures sont-elles l'image ?» Il dit « Ces caricatures ne font que révéler ce que beaucoup ne veulent pas voir, la défiguration que la violence et la terreur font subir à la foi de millions de personnes. » Et je rappellerai la célèbre phrase de Sébastien Castellion, 1515-1563, humaniste, bibliste, protestant savoyard, dans sa défense de Michel Servet, condamné le 26 octobre 1553 au bûcher, comme hérétique par le Grand Conseil de la République de Genève. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, il ne défendait pas une doctrine, il tuait un homme. On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle.
C'est d'autant plus intéressant que Frédéric Boyer lui-même a commis une Bible complètement illustrée. Donc, voilà, il est peut-être en connivence avec ses dessinateurs de Charlie Hebdo. Catherine, je crois que vous vouliez aussi intervenir.
Oui, j'ai dans le journal Réforme.
Donc le journal protestant.
Le journal est de manière protestante. La gestion du lieu de mémoire au Chandon-sur-Lignon a été confiée depuis le 1er septembre au mémorial de la Shoah. Votée en février par le conseil municipal de la commune, la décision avait ensuite été approuvée par le conseil d'administration du mémorial en mars. Il s'agit d'un bail emphytéotique administratif de 40 ans. Ouvert depuis 2013, ce musée est dédié à la sauvegarde de la mémoire de l'action de sauvetage menée par les habitants du Chambon-sur-Lignon et du Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs milliers de Juifs avaient trouvé refuge auprès de la population, en grande majorité protestante, de ce village et des communes voisines. En 1990, cela avait valu au Chambon de recevoir à titre collectif le titre de « Juste parmi les nations » décerné par le Yad Vashem.
Après ces interventions, eh bien, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui qui était les interdits alimentaires, parce que quelquefois, effectivement, ici et là, on voit des débats autour des cantines ou autour des magasins halal ou cachère. Et finalement, derrière ces débats, souvent il y a une profonde ignorance. Et je rappelle que l'objectif de notre émission, c'est plutôt d'échanger, de se poser mutuellement les questions afin de faire avancer la connaissance, parce que finalement, grâce à la connaissance et puis à la rencontre de l'autre, c'est ça qui fait baisser les frontières entre les personnes. Et à Radio Grand Ciel, c'est un peu son objectif et encore plus pour cette émission. Alors, interdit alimentaire. Allez, on commence par les musulmans.
Écoutez, les interdits alimentaires sont au niveau de 4, mais je voudrais juste rappeler que le Coran nous rappelle que Dieu autorise aux musulmans la nourriture des gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Et il y a 4 interdits, c'est le porc, la bête morte, le sang, et toute bête qui aurait été sacrifiée en offrande à un autre dieu.
À
des idoles. Et ainsi que, comme vous savez, l'alcool, tout ce qui est. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui est poisson, crustacé, tout ce qui vient de la mer est autorisé.
Et quand tu dis une bête morte, tu veux dire une bête qui a été trouvée morte.
Voilà, une bête qu'on a trouvée morte.
Pas une bête qu'on a tuée, une bête qu'on a trouvée morte.
Oui,
voilà.
Ouais, tout à fait, une bête qu'on a trouvée morte et on ne sait pas, soit elle était encore née, soit elle était attaquée par un félin ou qu'elle était malade. Une bête qu'on a retrouvée morte et qu'on n'a pas eu le temps de saigner.
Voilà,
donc on retrouve là l'interdit du sang.
Tout à fait, absolument.
En fait, je ne sais pas si le problème se pose tellement sur le plan social. Un jour, il y a des amis qui avaient organisé dans un bled, là, une choucroute. Alors je leur dis, vous visez quel public ? Oh, ben tous les publics !
Ah oui,
non mais voilà.
Ça peut être de la choucroute de poisson, d'ailleurs.
C'est très bon.
Ah oui.
Non, mais c'est délicat parce que la foi, elle est présente. Parle-moi une anecdote là pendant l'Aïd.
Oui.
Moi, j'ai un collègue de travail depuis 30 ans. C'est lui, il a des naissances de moutons, c'est lui qui m'a toujours mis de côté. Et du coup, il est mort dans la soirée. Parce qu'il y avait une chaleur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été peut-être l'hydratation, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, mon collègue, il me téléphone, il me dit bah, mangez-le, vous n'allez pas le laisser. Et je lui disais non, parce que comme il n'a pas été égorgé, mais c'est pas possible, le but il n'est pas là. C'est pas le jour du sacrifice.
Ah, parce qu'il y a des jours de sacrifice.
Bah, il faut le faire le jour du sacrifice. Mais il était mort
sans. C'est la fête du mouton, ça s'appelle la fête du mouton.
La fête du mouton.
Et il était mort la veille.
Ah, dans le déroulement, il y a un jour pour le.
Oui.
Ah, d'accord.
Il y a deux fêtes principales chez les musulmans, celle qui clôture la fin du ramadan.
Oui.
Et celle qui clôture le pèlerinage.
Ah oui.
Le grand pèlerinage.
Oui.
Ben les gens, ceux qui sont partis en pèlerinage, ils ne sont pas assujettis au sacrifice, mais ceux qui sont rassemblés, on doit sacrifier une bête.
D'accord.
Ce jour-là.
Il était mort la veille.
D'Abraham.
Il était mort la veille.
Et du coup, lui, il disait mais mangez-le, vous n'allez pas laisser laver.
Alors finalement, elle est devenue quoi la bête
chez les carisseurs, elle est venue.
Ils ne l'ont pas tuée, enfin, elle était morte déjà. Donc, ils n'ont pas consommé la viande.
Est-ce qu'il y a une manière rituelle de tuer les bêtes, c'est-à-dire est-ce que le sacrificateur
déjà il doit On doit, avant de la sacrifier, c'est que l'animal ait vécu dans des conditions correctes. L'animal ne doit même pas voir le couteau avec lequel on va le sacrifier. On doit orienter la bête en direction de la Mecque, prononcer le nom de Dieu et le saigner. Voilà.
Il y a un rituel.
Il y a un rituel.
Il y a une prière.
Absolument.
Alors, ce qui veut dire que ça, elle ne peut pas être tuée dans n'importe quel abattoir, alors.
Dans n'importe quel abattoir, sauf que le sacrificateur, il faut qu'il soit musulman.
Voilà.
Il y a une formation pour être...
Il y a des formations qui sont faites. Il y a des certifications qui sont délivrées par... notamment, vous avez cité M. Shamsuddin, qui est le recteur de la mosquée de Paris, qui délivre des certificats aux certificateurs. Et vous avez des certifications, on appelle les certifications halal, qui certifient que l'animal a été abattu selon le rite musulman.
Et c'est applicable dans toute...
Dans tout lieu, il n'y a pas de lieu spécifique, il n'y a pas un lieu spécifique, même chez vous, là, on peut sacrifier une bête selon les rites musulmans.
Que veut dire le mot halal ?
Licite.
Licite.
Voilà.
Pourquoi on ne doit pas consommer le sang ?
Parce qu'il est considéré comme impur.
Ah d'accord, je crois que c'est parce qu'il fallait qu'il retourne dans la terre ou pas.
Non, le sang est considéré comme impur.
Le sang est considéré comme impur.
Je ne suis pas médecin, mais j'ai toujours dit que le sang, c'est ce qui prolifère tout ce qui est maladie, microbes.
Et puis le sang, c'est la vie quand même, d'une façon générale, dans les religions. C'était le sang égale la vie, donc il y avait cet interdit.
Oui, c'est la vie. Mais le faire couler, c'est aussi d'offrir la vie à quelque part. C'est offrir la vie, ce n'est pas le plaisir de faire couler le sang, c'est offrir la vie aussi peut-être à Dieu.
Oui. J'ai encore une question par rapport à pur.
Par rapport à
pur et impur. Le paon, il est impur.
L'oiseau.
L'oiseau, oui. Il est impur. C'est parce qu'il est impur qu'on ne peut pas le manger.
Impur, du côté musulman, j'en ai jamais entendu parler du paon. Je ne pense pas que c'est un animal qu'on ne consomme pas. Mais bien sûr, vous avez toutes les bêtes. Tout ce qui est carnivore, déjà, c'est interdit.
D'accord.
Toute bête carnivore, tout ce qui est carnivore, on sacrifie que les herbivores. On considère que l'herbe a été créée pour nourrir ces bêtes, et ces bêtes ont été créées pour nous nourrir. Bon, les végétariens et les véganes ont...
Ah
ben,
c'est autre chose.
Voilà, on va apprécier, mais...
C'est pas encore une religion.
Voilà.
Mais alors, par exemple, moi, les oiseaux, par exemple, je pense pigeons...
En Égypte, ils en consomment énormément de pigeons.
Ah oui.
Des coquelets.
Voilà, donc. Mais pas le paon. De toute façon, j'imagine. Enfin, quand on
le paon, je ne sais pas. J'en ai jamais consommé. Je ne sais pas.
De toute façon, ailleurs non plus, je ne pense pas qu'on consomme du paon.
Pardon ?
Vous ne savez pas le pourquoi de.
Du paon ?
Du paon.
Non.
Non, voilà,
non,
c'est
non.
Ça.
Donc, je sais que vous avez la réponse, Jean.
Non, je n'ai pas la réponse. On distingue les choses pures et les choses impures.
Et le paon est considéré impur, mais je...
Et donc, voilà, ce n'est pas parce qu'il fait ceci ou il fait cela. Exactement comme le porc, ce n'est pas parce qu'il est pur, parce qu'il est sale, il va transmettre la trichinose, il va transmettre des trucs, c'est parce qu'il est impur.
Oui.
Parce qu'il ne rentre pas dans la classification de ce qu'on peut manger. Et donc, c'est la raison de nos interdits ne repose pas sur la maladie possible, sur l'amélioration, etc. Ça ne repose que sur le fait qu'on doit manger ce qu'on nous dit de manger, parce que ce qu'on nous dit de manger, c'est ce qui est pur.
Et bon pour nous.
On ne dit pas que c'est bon pour nous, c'est ce qui est pur, parce que dans la Bible, dans la Torah, il est marqué que « Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, car je suis l'Éternel qui vous a tiré du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. » Et tout de suite après cette phrase, crac, il y a les interdits alimentaires.
Alors, c'est quoi ces interdits alimentaires ?
Je vais vous les donner, mais je vais vous les dire, il y en a beaucoup. Mais on a évidemment cherché des explications à tout ça, en particulier la saleté du port qui transmet des trucs, des machins. Éventuellement, il y a un autre interdit tout à fait particulier qui est le mélange des genres. On ne peut pas, par exemple, atteler un âne et un bœuf à la même charrue. On ne peut pas planter dans un même champ diverses graines, mais on ne peut pas non plus mélanger le lait et la viande.
Oui.
Et on ne peut pas alimenter, par exemple, ces herbivores, c'est-à-dire les vaches, avec des farines animales, parce qu'on mélange deux genres. Mmh. Ce qui fait que les Juifs qui mangent cachère avaient la garantie de ne pas avoir la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle, qui était alimentée par les farines animales. Et donc, il n'y a pas d'explication. La seule explication, c'est que si on obéit à la loi, on va peut-être devenir saint comme Dieu nous le demande.
Tout à fait.
Il se trouve que, bien souvent, il y a des notions d'hygiène qui existent, qu'on peut retrouver, mais les rabbins ont beaucoup, beaucoup cherché, et une des choses qu'ils ont dit, c'est peut-être justement le fait qu'un juif ne va pas manger avec des non-juifs, parce que c'est pas cachère, c'est-à-dire c'est pas licite de manger, on ne sait pas comment c'est, ce qui est la nourriture des non-juifs, et ça va comme ça permettre de garder, d'éviter que nos enfants épousent des non-juifs. Bon, c'est une explication
trouvée par des tonnes d'explications.
Non, il y a des tas de.
Des tas.
Alors, on dit.
L'interprétation, ça, voilà.
Oui, c'est des gens qui interprètent.
Donc, les interdits et ce qui est permis. L'ensemble de tout ça, ça s'appelle la cache-route. Cache-route, ça veut dire licite, finalement. Et cachère, être cachère, ça veut dire être licite. Hein. Donc, on peut manger tous les végétaux. On ne peut pas manger les invertébrés, on ne peut pas manger les crustacés, on ne peut pas manger les mollusques. On ne peut pas manger les amphibiens, pas de grenouilles, pas de cuisses de grenouilles. On peut manger les oiseaux, mais seulement les non-rapaces. Mmh. Exactement, oui. C'est la même chose de toute manière. Les rapaces, ceux qui mangent leur proie en vol, par exemple, donc ce sont les animaux de la basse-cour. Uniquement, mais les animaux de la basse-cour, donc les poules, les coqs, doivent être sacrifiés par le sacrificateur régulier. Et de la même manière qu'on va retrouver pour les animaux, tout de suite après, il faut les vider de leur sang, parce que le sang, c'est la vie, et donc on ne doit pas, prendre la vie de quelqu'un d'autre, et quand le sang coule, il faut recouvrir avec de la terre, il faut recouvrir le sang qui coule, c'est dans la Bible comme ça. Donc il faut enlever tout le sang de façon à ce qu'on ne prenne pas la vie de quelqu'un d'autre, ce qui serait considéré comme un meurtre finalement. Et donc le poulet est égorgé par le sacrificateur qui fait aussi des études, qui a aussi un diplôme, et les diplômes maintenant en France sont même contrôlés par l'État. Donc je pense que les diplômes aussi de vos sacrificateurs doivent être aussi contrôlés par l'État.
Dans les abattoirs, il y a une zone spéciale, ou en tout cas quelque chose de spécial pour l'abattage juif ou l'abattage musulman.
C'est possible, oui.
C'est les mêmes zones, sauf qu'elles sont nettoyées automatiquement après. Admettons qu'on a abattu des porcs, ils vont nettoyer toute la chaîne d'abattage pour passer au cachère ou à la...
Et donc le sang doit être vidé, donc on égorge le poulet. Alors la mise à mort des bêtes se fait par un couteau qui est effilé, qui est tout le temps réaffûté. Il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche dans le couteau. Et le sacrificateur ne doit avoir aucun effort pour trancher la gorge. La trachée à terre et l'œsophage, il ne doit faire aucun effort, c'est-à-dire que la lame doit glisser finalement sur l'endroit et la mort est quasiment instantanée. Au niveau des animaux, alors les animaux ne sont permis que ceux qui ruminent et ceux qui ont sabots fendus. Donc le porc rentre dans la catégorie des choses interdites, le cheval aussi, donc je ne connais pas le goût de la viande de cheval, d'autant qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Alors, après l'égorgement de la bête, on va examiner ses poumons. Et si on trouve un trou dans les poumons, la bête n'est pas cachère. Et là aussi, on pourrait dire que c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'un trou dans les poumons, c'est la tuberculose bovine. Et si vous visitez les étables, hein, il y a toujours des pancartes, des panneaux, vérifiés, vétérinaires, pas de tuberculose, etc. Et donc la bête n'est pas cachère, donc elle n'est pas mangeable par les Juifs. Elle peut être mangeable d'un autre côté, mais elle n'est pas mangeable par les Juifs. Et de la même manière que dans la lutte de Jacob contre l'ange sur son échelle, rappelez-vous, eh bien, il en est sorti avec une atteinte à son sciatique, à son nerf sciatique, ce qui a rendu Jacob boiteux. Et en souvenir du combat de l'ange, eh bien, on doit enlever le nerf sciatique des animaux. Or, c'est des animaux abattus. Or, enlever le nerf sciatique d'une vache, ça prend des heures. Et donc, la simplification de la chose est que toutes les parties arrière de la bête, à partir des hanches, ne sont pas cachères, et donc elles sont revendues à des non-juifs.
Ah, oui. Il y a des choses intéressantes.
Ah, oui.
Pour terminer sur la cache-route, donc quand la bête a été vidée de son sang, donc la bête est découpée, elle est vendue, et donc le boucher va vendre son kilo de viande à la personne juive, mais il y a toujours du sang, il reste du sang dans la viande, et donc la viande va être lavée, on va la saler pendant une heure, de façon à ce que le sel absorbe le reste de sang, et ensuite elle va être lavée. Seulement après ce travail, qui va durer une heure et demie à deux heures, la viande peut être mangée et être déclarée cachère. Donc c'est tout un travail.
Oui, des préparatifs quand même.
C'est des préparatifs spéciaux. Importants pour pouvoir être mangé cachère. Et une des dernières choses, donc on ne mélange pas le lait et la viande, tout à cause du fait qu'il est marqué, c'est très, très connu, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et donc quand on a fait dans un repas, on peut commencer par des laitages, se rincer la bouche et ensuite manger éventuellement de la viande. Mais si on a commencé par de la viande, eh bien, il faut attendre la digestion, c'est entre 1h30 et 6h selon les communautés, avant de pouvoir manger des laitages. Donc un repas de viande ne va pas se terminer par des yaourts ou des choses comme ça. Voilà.
Ah oui.
Et pas de fromage.
Pas de fromage, pas de crème, non, aucun laitage. Aucun laitage, il faut que les laitages. Il peut y avoir un repas que de laitage.
Oui. Hein.
Mais voilà, si vous voulez manger votre yaourt, il faut le manger avant la viande. Pour le vin, alors le vin, c'est quand même quelque chose de très important, puisqu'on trouve.
C'est le vin de la fête, quand même.
On trouve. Pardon ?
C'est le vin de la fête, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Mais on trouve déjà dans un psaume de David, le psaume, je ne sais plus, 104, le fait que le vin réjouit l'âme de l'homme. Et le vin fait partie des célébrations de toutes les fêtes. Mais il est interdit de boire de trop, il est interdit de devenir ivre.
C'est une bonne chose. On comprend ça, même quand on n'est pas religieux.
Oui, pour moi, ça reste un problème parce que j'ai envie de manger avec des gens sans m'occuper de leur religion. Et j'ai eu des situations où, ne sachant pas si des gens que je savais de religions différentes, mais ça, ne sachant pas s'ils étaient pratiquants ou pas, ben, je n'ai pas osé les inviter à manger. Voilà. Il faut reconnaître, bon, moi je respecte, hein, puisque c'est la loi, c'est la loi. Mais pour moi, c'est un handicap à la vie sociale.
Et je crois que ça rejoint ce que saint Paul, a, dans ses tentatives de conversion des païens, a eu. Il était invité à manger, et comme juif, il ne pouvait pas aller manger normalement chez les non-juifs. Raymond.
Dans le débat sur l'observance des interdits religieux, c'est vrai que les apôtres n'allaient pas manger chez les chrétiens d'origine païenne. Et puis, très vite, Paul a eu ce débat au Concile de Jérusalem, Et finalement, ils se sont dit, mais le Christ nous a donné l'ordre d'aller baptiser toutes les nations, donc de se tourner aussi vers les païens. Donc, l'interdit alimentaire pouvait ne pas être respecté. Et même, on a dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre qui circule et qui, avant de rencontrer le centurion Corneille, donc un Romain, a vu une couverture pleine de mets interdits et la voix lui disait « mange ». Donc il a bien compris que là, Dieu lui ordonnait d'entrer en relation avec les païens. Et lorsqu'il était invité, puisqu'il était invité chez Corneille, ce centurion, eh bien, il mangerait des produits qui pouvaient être interdits chez les Juifs. Par contre, il y avait une recommandation, c'est de ne pas scandaliser. C'est-à-dire, la règle, c'était de respecter l'autre. Donc, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais quand vous êtes avec des Juifs, eh bien, vous respectez les interdits juifs. Et lorsque vous êtes avec des païens, vous n'avez plus à respecter les interdits juifs. Donc, il y avait ce souci du respect de l'autre.
Et puis, Jésus a posé quand même la grosse question du pur et de l'impur, puisqu'il s'est adressé un jour aux pharisiens en leur disant vos cœurs, l'enveloppe est pure, mais le cœur est impur. Et ça c'est comme la loi. La loi est faite pour les hommes, non les hommes pour la loi. En fin de compte, Jésus a complètement inversé. Il n'a pas été contre la loi, mais il a dit, écoutez, faites attention. Enfin, c'est vrai, vous êtes là à dire ça, parce qu'il a été remis en question, parce que ses apôtres oubliaient de se laver les mains avant le repas. Et Jésus, il a été interpellé, d'ailleurs, parce qu'il voulait le condamner. Hein. Et Jésus leur a dit, mais certes, ils ne se sont pas lavés les mains, mais vos mains sont propres. En gros, c'était ça, vos mains sont propres à vous, mais votre cœur est parfaitement impur. Et je trouve ça intéressant, parce que ça remet en place, même pour moi, ça remet en place tout ce qui est interdit à sa juste valeur, et pas, comme on disait tout à l'heure, pourquoi nous, les chrétiens, on mange du poisson le vendredi. On a oublié complètement. Alors on mange systématiquement une fois par semaine du poisson. Ça rime à quoi? Si on ne sait plus pourquoi, dans quel sens, hein? C'était le jeûne pour faire mémoire de la mort du Christ. Donc, ça me fait penser à une personne, une fois, qui disait à mon grand-père, oh ben moi, ça ne me coûte pas de faire... C'est une personne assez argentée. Ça ne me coûte pas de faire le jeûne du Vendredi Saint parce que nous mangeons de la langoustine. Donc, mon grand-père, qui n'était pas un très grand croyant, lui, qui disait, oh ben celle-là, alors, ben bravo, qui disait comme ça ma grand-mère, si c'est ça, comme ça qu'elle jeûne. Mais c'est vrai qu'on peut aller jusque-là, à des aberrations comme ça, en disant, ben oui, puisque c'est pas de la viande, on jeûne, alors que non, l'esprit... Moi, je pense qu'on peut manger du blanc de poulet et puis faire jeûne. Hein. Abstinence, c'est pas se baffrer, justement.
Surtout, le jeûne, c'était fait pour... comment dirais-je?
Pour se préparer à célébrer les fêtes religieuses, finalement.
Oui, mais c'était pour être...
purifié.
Ne pas être, avoir l'estomac occupé et l'esprit occupé, mais de penser à Dieu, simplement, à sa mort. Et c'était une... comment dirais-je,
un respect vis-à-vis de la divinité.
Oui, un respect, mais c'était une attitude pour se concentrer sur la parole de Dieu, oui. Et pas sur ce qu'on a mangé dans notre assiette.
Se nourrir de la parole.
C'était ça le but du jeu.
Bon, je crois que le temps s'écoule et que largement, donc je crois qu'il est temps de dire que sûrement des choses encore sont à repréciser. Et que dans ces interdits ou ces usages, eh bien, nous reviendrons sûrement à l'une ou l'autre des émissions sur ces questions qui intéressent certainement nos auditeurs parce qu'elles permettent de connaître un peu mieux les autres. Eh bien, merci. Et puis aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.